Un instant, en croisant leurs regards, Clotilde imagina qu'ils pensaient la même chose. Peut-être Palma était-elle tout simplement repartie comme ce 23 août 1989, là où elle n'était jamais arrivée, dans la même direction, vers la même maison. Retrouver l'homme qui vivait là-bas, Natal et Angeli. Après tout, il habitait toujours la Punta Rossa. « Viens, » fit Cassano, « on retourne à Arcano. » Ils rebroussèrent chemin en silence. Passèrent l'arbre au pendu, le rocher des fédérés, en respectant un recueillement calculé par Cassano pour lui laisser le temps d'admettre l'inadmissible, de croire l'inimaginable. Les images défilaient dans la tête de Clotilde. Sa mère enfermée, l'amitié qui petit à petit grandit entre elle et Orsou, le garçon silencieux chargé de lui apporter à manger. Ce chiot qui naît et qu'elle propose de baptiser. Des morceaux de conversation qu'elle surprend sûrement. Quelques paroles échangées avec Elisabetta peut-être. Et après toutes ces années de vie dans sa chambre noire, seulement éclairée de Betelgeuse certains soirs, elle apprend que sa fille revient en Corse. Elle se sert d'Orsou comme messager. Lui confie quelques mots griffonnés, suffisants pour fournir à sa fille la preuve qu'elle est vivante. Puis, le charge de dresser une table de petit déjeuner identique à celle d'il y a 27 ans. Puis de l'amener, à minuit, jusqu'à sa prison. Pour la revoir. Simplement la revoir. Pas pour la mettre en danger. Quel danger? Quel secret cachait sa mère? Jamais elle n'aurait égorgé Pacha. Jamais elle ne se serait sauvée au moment de la retrouver. Jamais elle n'aurait touché à la barre de direction de cette voiture. Jamais elle n'aurait pu mettre en danger la vie de ses enfants, les tuer, même par accident, ce soir du 23 août. Une seule information comptait, au fond, parmi toutes celles, plus insensées les unes que les autres, qu'on lui avait jetées à la figure aujourd'hui. Sa mère était vivante. Campa sempre. Maintenant, c'était à elle de jouer. C'était son métier. Prouver son innocence. Cassano accélérait le pas. Peut-être parce que le sentier descendait en pente douce jusqu'à Arcano. Peut-être parce qu'il avait libéré sa conscience et qu'il ne pensait plus maintenant qu'aux quatre assiettes et aux figatellos qui l'attendaient. « Pas si vite, papé, » pensa Clotilde. « Pas si vite. Ta petite fille risque fort de te couper l'appétit. » Elle posa une main sur celle de son grand-père, celle qui tenait la canne. « Papé, et s'il existait une autre piste? Un autre coupable possible ?» Cassano ne s'arrêta pas, força peut-être encore davantage l'allure. « J'avais raison, » se contenta-t-il de répondre. « Mieux valait régler ça sans avocate. » Elle força l'ironie dans sa voix. « À qui la faute ?» C'est à toi que je dois ma vocation. Souviens-toi, il y a 27 ans, en haut du capot d'Iaveta. Peut-être que tout était écrit. Peut-être que tu m'as donné l'idée de devenir avocate uniquement pour que des années plus tard, je te prouve que tu as commis la plus grande erreur de jugement de ta vie. Ça ne fit même pas sourire, papé.
On a suivi toutes les autres pistes, Clotilde, crois-moi.
Même celle de Cervone Spinello? Cette fois, le rythme des pas de Cassano entre sa canne et son pied droit se désynchronisa.
Cervone Spinello. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Il avait 14 ans à l'époque.
17 ans.
17, si tu veux. Ce n'était qu'un gamin. Quel rapport avec le sabotage de la Fuego? C'est ça la méthode des avocats du continent. Choisir un type mort depuis quelques heures et tout lui coller sur le dos.
Clotilde ne se laissa pas impressionner. Il continuait de marcher. On apercevait la cime du chêne d'Arcano. Avec son grand-père, comme avec tous les autres hommes, il fallait bluffer. Cervone était au courant pour ma mère, n'est-ce pas, papé? Pour son procès? Pour sa condamnation à perpétuité? Cervone vous a fait chanter? Cassano leva les yeux au ciel.
Ça n'a rien à voir avec le sabotage de la voiture, mais oui. Des années plus tard, Cervone a entendu Basile, son père, en discuter avec un autre juré d'Arcano. Depuis toujours, cette fouine de Cervone écoutait tout. Après après la mort de son père en 2003, quand il a hérité du camping, il ne m'a pas fait chanter, comme tu dis. On n'emploie pas ces mots-là ici. Ce sont des mots à se retrouver criblés de balles à la terrasse d'un bar. Il m'a simplement fait comprendre qu'il était au courant. Nous n'avons même pas eu besoin d'en discuter. Nous connaissions tous les deux les termes du pacte. S'il parlait à un flic, à un journaliste, à n'importe qui, alors je risquais la prison, moi et toute ma famille. Et cela revenait à laisser à l'abandon la propriété d'Arcano. Gervone m'a simplement demandé de lui laisser bâtir quelques hectares, de rénover les Eupproctes en agrandissant le restaurant, en construisant des sanitaires supplémentaires, des chalets finlandais, des bungalows, une paillote sur la plage de l'Ochelucha, quelques terrains qui continuaient de m'appartenir mais qu'il exploitait. Pour celui de la Marina Roquemare, il l'avait acheté, mais demandait, disons, ma protection. Entre l'honneur de la famille et quelques hectares bétonnés, il savait pour quel choix j'opterais.
Si ce n'est pas du chantage, ça porte quel nom?
Une négociation. Gervone savait qu'il ne risquait rien de moi. Il était le fils de mon meilleur ami.
Alors ce n'est pas toi qui l'as fait assassiner? Cassano roula des yeux étonnés.
Ils avaient atteint la cour d'Arcano, et le chêne projetait sur eux son ombre disproportionnée.
Non! Pourquoi aurais-je commandité un tel meurtre? Gervone Spinello était ambitieux, peu scrupuleux, avec le sens des affaires plus que de la terre, mais il aimait la Corse, à sa façon. D'une autre façon, d'une autre génération. Peut-être même que pour le béton, c'est lui qui avait raison.
Clotilde ne releva pas. Son papé était comme les autres, au fond. Un homme qui avait laissé filer en chemin ses illusions. Parce que le monde tournait trop vite. Une gigantesque machine à essorer les utopies. Elle hésita, puis y renonça, dans l'immédiat, à donner davantage de détails sur sa version. Gervone Spinello, qui dévisse l'écrou de la rotule de direction de la Fuego, parce qu'il est persuadé que ce soir-là, Paul et Palma Edrissi ne la prendront pas. Qu'ils monteront comme prévu par le sentier dormir à la Casa di Stella. Parce que celui qui doit conduire la voiture ce soir-là, même si aucun adulte n'est au courant, c'est Nicolas. Nicolas accompagné de Maria Chiara. C'est eux dont l'assassin voulait se débarrasser. Par envie, par jalousie, par dépit. Cette hypothèse, ni Cassano, ni aucune personne de plus de 18 ans n'aurait pu l'échafauder. Les secrets d'un groupe d'ados sont plus difficiles encore à percer que ceux d'un village corse frappé de merta. Ils traversèrent lentement la cour de la bergerie, contournant les parterres d'orchidées plantées par l'Isabetta. Contrairement à ce que Clotilde avait cru, Cassano ne se précipita pas vers la cuisine, mais s'assit sur le banc, celui sur lequel elle s'était endormie avant l'accident, il y a 27 ans. « Non, continua-t-elle de raisonner. Personne n'aurait pu deviner ce qui s'était joué dans ce groupe d'adolescents, cet été-là. Personne. Aucun témoin. Aucun adulte. À moins que... » Clotilde regardait Cassano respirer lentement sur le banc. Papé ressemblait à un chat. Un gros chat endormi qu'on croit fatigué, amorphe, incapable du moindre effort, et qui pourtant réagit et bondit au moindre signe de danger, rapide, précis, sans pitié. Elisabetta était sortie de la bergerie et s'approchait inquiète. Speranza demeurait sur le seuil, vigilante.
« Ça va, Cassano ?»
Le vieux Corse ne répondit pas. Il fermait doucement les yeux, laissant le soleil le pousser au sommeil. « Mais oui, confirma-t-il d'un signe de tête, ça allait. Une canne, un chapeau, sa bergerie, son chêne, sa tribu. À moins que... » Les pensées de Clotilde s'affolaient. Elle se tenait là, à la place de Cassano, quelques minutes avant l'accident. Elle s'était endormie, elle écoutait la Mano Negra. Elle avait griffonné quelques derniers mots avant que son père ne la force à monter dans la Fuego. À moins que... Aucun adulte n'aurait pu deviner les drames qui se jouaient parmi les adolescents cet été 89.
à moins que l'un d'eux n'ait lu son journal. Mamie Elisabetta s'avança, passa une main sur son épaule, rassurée par l'état de santé de son mari. Elle se pencha vers l'oreille de sa petite fille, comme si elle avait un secret à lui confier, comme si elle avait lu dans ses pensées.
« Le soir de l'accident, ma chérie, sur ce banc, tu avais oublié ton cahier. Eh bien !»
Elle n'eut pas le temps de continuer. Le téléphone de Clotilde vibra dans sa poche.
« Franck !»
Enfin. Clotilde s'éloigna d'un mètre.
« Franck, tu es rentré ?»
La voix de son mari était hachée, haletante. On aurait pu croire qu'il avait couru ou que le vent soufflait autour de lui. Il ne s'était pas parlé depuis 2 jours, mais il ne s'embarrassa d'aucun bonjour.
« Valou est avec toi ?»«
Non, pourquoi ?»«
Je suis aux œufs Procte, à l'accueil avec Annika. Tu as laissé un message, tu as demandé à Valentine de monter à Arcanou en urgence. »
Le sol se déroba sous ses pieds. Clotilde se retint au banc pour retrouver son équilibre.
« Ce n'est pas moi, Franck. Je n'ai jamais rien envoyé. »«
Ton grand-père, alors ? N'importe qui à Arcanou ?»
Je ne sais pas, c'est étrange. Attends, je vais demander.
Clotilde se planta devant Elisabetta. Mais avant même qu'elle puisse l'interroger, sa grand-mère parvint à terminer sa phrase.
Le soir de l'accident, ton cahier, c'est moi qui l'ai ramassé.